Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. On n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour connaître la devise de la République française. La formule « liberté, égalité, fraternité » s'inscrit fièrement sur les frontons des édifices publics. Mais est-ce si simple? Notamment le dernier terme « fraternité », est-ce vraiment un concept creux dans une société fragmentée et égoïste comme la nôtre? D'où le titre que j'ai donné à cette émission, Liberté, Égalité, Fraternité. Vous pouvez répéter Fraternité ?
Fraternité.
Aujourd'hui, pour en parler, je reçois Henri Masson, avec qui on a déjà fait connaissance lors d'une émission Un protestant peut en cacher un autre, qui est président de sortant de la CIMAD, organisation qui défend les réfugiés. Alors, bonjour Henri.
Bonjour Yolande.
Alors, liberté, on sait à peu près ce que c'est, oui. Bien qu'il vaut mieux parler des libertés,
oui.
Liberté de culte,
oui.
Liberté de presse, etc. Égalité, on sait aussi, bien qu'il faudrait plutôt parler de l'égalité des droits à la naissance, parce qu'après ça se gâte un peu. Mais la fraternité, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est très intéressant comme question. D'abord, je voudrais rappeler qu'il y a très peu de pays qui ont inscrit la fraternité dans leur devise. Je crois qu'il y a la France, il doit y avoir Haïti, peut-être un autre pays en Afrique, mais je n'en suis pas très sûr, effectivement. La deuxième chose, c'est que cette notion de fraternité a été ajoutée tardivement par rapport à la notion de liberté et d'égalité, et que du même coup, elle a posé débat pendant très longtemps. Parce que liberté, c'est effectivement une sorte de garantie qui nous est donnée à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous et tout. Égalité aussi, c'est une forme de garantie qui nous est donnée. Elles nous sont données, ces garanties, au fond, par la loi, par le régime juridique et tout. La fraternité, autant que je sache, il n'y a pas une loi qui dit il faut être fraternel, ne serait-ce que parce que c'est assez difficile à définir. Mais c'est quelque chose, surtout, que nous devons nous-mêmes fabriquer vis-à-vis de toutes les personnes qui nous entourent. Des personnes de notre famille, mais aussi les personnes que nous rencontrons dans la rue, les personnes qui sont en difficulté comme les personnes qui se portent bien, des amis, des personnes inconnues, et ainsi de suite. Et cette notion de fraternité est tellement, au fond, originale dans cette devise, peut-être au fond assez complexe à définir, encore que tout le monde sent bien ce que cela recouvre effectivement, c'est que il a fallu attendre 2018 pour qu'elle ait un caractère constitutionnel, contrairement à liberté et égalité. Et c'est dans une décision du Conseil constitutionnel de juillet 2018 qu'il a été décidé que le principe de fraternité était aussi constitutionnel que la liberté et que l'égalité, et que c'était à ce titre-là que quelqu'un ne pouvait pas être poursuivi parce qu'il venait en aide à une personne, même si elle n'avait pas de papier sur le territoire français, effectivement. C'était quelque chose de tout à fait important. C'était à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion d'un procès concernant Cédric Herrou, bien connu, effectivement, et à laquelle la CIMAD était aussi partie prenante et tout. Et c'est une fierté, enfin, je le pense, pour ce mouvement qu'est la CIMAD, d'avoir effectivement aidé à constitutionnaliser quelque chose qui est essentiel dans une société très, très secouée, très brisé comme ce que vous indiquiez en introduction, qui est la société française. Sans la fraternité, nous n'arriverons pas à avancer. Et pour le coup, l'individualité, l'individualisme plutôt, qui nous saisit très souvent, et nous-mêmes, effectivement, est quelque chose qui est dangereux, pour faire avancer un pays. La fraternité devrait nous aider à nous guérir de temps à autre de cet individualisme forcené auquel nous sommes portés les uns et les autres, je dirais naturellement et par l'environnement aussi.
Et d'après ce que vous dites, donc la fraternité, c'est un terme qui implique un mouvement vers autrui,
oui.
Alors que l'égalité et la liberté, ça implique soi-même. C'est... Oui. Mais il n'y a pas de loi pour
non.
Obliger les gens à être fraternels. D'ailleurs, heureusement, parce que ça serait un peu bizarre.
Oui, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun texte et tout. Donc...
Alors, pour la Constitution, comment on le définit dans la Constitution alors ?
Mais on ne définit pas, c'est effectivement le principe qui nous permet effectivement de vivre les uns à côté des autres et qui nous permet fondamentalement de faire société à côté de la liberté et de l'égalité. La liberté et l'égalité sont des choses tout à fait essentielles, mais ça ne suffit pas pour que nous fassions société, que nous acceptions effectivement des règles communes, et en particulier une règle essentielle, qui est que les plus avantagés, les plus heureux doivent venir en aide à des personnes qui sont en difficulté.
Et effectivement, liberté et égalité, ça a posé problème aussi parce que la liberté et l'égalité, ça va pas ensemble. La liberté, c'est je fais ce que je veux.
Oui.
Bon, je schématise. Hein. Mm-hmm. Et l'égalité, c'est tout le monde doit être pareil. Si on peut dire les USA et l'URSS à l'époque, on peut dire la Russie aussi, mais quoique. La fraternité a été choisie justement pour adoucir la confrontation entre les deux. Et c'est quand même un terme chrétien, la fraternité.
Oui, mais
ça posait problème.
La liberté, elle a des limites pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que notre liberté s'arrête à celle des autres et tout. Donc là, il y a déjà une notion de respect.
Oui, oui.
Et quant à l'égalité, nous voyons bien que c'est plus un objectif avec un certain côté utopique, puisque l'égalité, vous l'avez dit, elle n'existe pas.
C'est l'égalité des chances à la naissance.
Voilà, et encore, non, l'égalité des chances,
elle n'existe pas, bien sûr que non.
À la naissance et tout, malheureusement. Et c'est justement la fraternité ou des applications de la fraternité qui vont permettre de lutter contre cette inégalité, en particulier par l'enseignement public, qui est tout à fait important et où normalement les chances devraient être les mêmes pour tout le monde. L'enseignement public à tous les niveaux, et pas simplement enseignement primaire ou secondaire et tout. L'égalité des chances aussi dans la vie ensuite, dans les périodes difficiles. Au fond, la fraternité, l'une des applications, c'est aussi l'ensemble de nos régimes sociaux qui doivent effectivement permettre à tout le monde d'être soigné de la même manière. Nous savons là aussi que c'est compliqué, que c'est difficile, que ça n'est pas forcément tout à fait possible. Et puis, il y a l'égalité des chances dans ce que nous vivons, dans l'utilisation que nous avons de nos services publics. Et là aussi, cette égalité, elle ne peut être réelle que grâce à la fraternité qui fait que des hommes et des femmes qui ont plus d'argent, qui ont effectivement des responsabilités qui leur donnent accès à des moyens financiers importants, doivent plus participer effectivement au financement de la société. Ça s'appelle l'impôt sur le revenu et tous les impôts en dehors des impôts sur de type TVA.
Voilà.
Mais je ne vais pas rentrer dans un cours fiscal.
Je suis très intéressée par l'idée que la fraternité finalement s'incarne dans les services sociaux. C'est vrai que c'est une...
Elle est au service. Et c'est pour ça qu'elle est, à mon avis, totalement essentielle, effectivement. Peut-être que si nous montrions à peut-être plus fréquemment, plus naturellement, alors même qu'il y a un débat aujourd'hui concrètement, ouais. sur le financement de oui. nos services sociaux, oui, ça on peut que dire. C'est un élément de consolidation de ouais. notre société. Alors on va me dire, mais regardez, dans d'autres pays, les régimes sociaux ne fonctionnent pas de la même manière. Oui, mais nous avons une histoire particulière, on ne va pas refaire l'histoire.
Et nous avons la fraternité dans notre devise voilà.
Et
républicaine.
Et nous avons la fraternité dans
alors,
notre devise.
Et alors, c'est ce que vous répondriez à Karl Marx, qui n'aimait pas ce concept de fraternité, parce qu'il ne voyait qu'à l'heure une façon pour la bourgeoisie de se maintenir au pouvoir.
Il n'avait pas tort, d'ailleurs, oui. de penser que la bourgeoisie avait envie de se maintenir au pouvoir. Ça, c'est tout à fait vrai.
C'est tout à fait vrai.
Je disais, c'est peut-être l'objectif essentiel oui. et fondamental de la bourgeoisie. C'est tout à fait ainsi. Mais cela étant dit, oui, la fraternité mal utilisée ou la fraternité qui, effectivement, se conçoit comme très souvent, dans un accompagnement de généreux, de gens riches et qui décident d'accorder un peu de leur bonté, de leur temps à des gens qui ont moins de satisfaction dans la vie. Je pense que ça, c'est une fraternité qui peut-être pas inutile, oui. mais qui ne va pas très très loin.
Oui.
Et tout. Et alors... La fraternité, pour moi, va beaucoup plus loin et tout. Elle est difficile à vivre. Et c'est peut-être pour ça qu'on a mis autant de temps à considérer qu'elle avait une valeur constitutionnelle. Parce que c'est... Et qu'il y a eu autant de débats. Parce qu'il n'y a pas eu que Marx qui s'est opposé à cette notion de fraternité.
Mais on peut dire aussi, si on va dans le sens des mots, que la fraternité, bah, c'est quand même, si on la comprend au sens strict, bah, par exemple, dans la Bible, la fraternité, c'est pas terrible. Caïn et Abel, Isaac, Ismaël, et compagnie. Mmh. Alors, est-ce que ce terme de fraternité est finalement bien choisi ?
Alors, il y a des gens actuellement qui vous diront qu'elle est mal choisie parce que, par exemple, frater, c'est un nom masculin.
Voilà, et alors que il y a déjà, la sororité maintenant, on parle de sororité. Pourquoi pas ?
Je ne trancherai pas ce genre de débat parce que je n'ai pas d'idée particulière à proposer là-dessus. Mais il faut en tenir compte très clairement. Quand je parle moi de fraternité, c'est une fraternité
bien
entre
sûr.
Hommes
bah,
et femmes
oui,
et pas simplement.
Bien
évidemment. Et,
voilà.
et je pense que bien sûr la devise était ainsi fabriquée. C'est vrai que dans la Bible il y a beaucoup d'exemples de fraternité. Fraternité malheureuse
oui.
et tout, et que les premières pages de la Bible s'ouvrent sur effectivement le premier meurtre dans l'histoire du monde et qui est un fratricide.
Voilà,
et tout.
Oui.
C'est quand même assez surprenant, effectivement. Ouais. Mais c'est pour montrer peut-être que c'est effectivement un chemin difficile, un chemin compliqué et qui est en construction permanente. Peut-être pourrait-on dire que la liberté avance d'année en année, on peut l'espérer, par des textes de loi, par des textes de décret
ouais.
qui figent certaines choses
oui.
et que, bien entendu, tout manquement à ces textes va être sanctionné. De même pour l'égalité. Et c'est un objectif, on ne l'atteint pas malheureusement aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, mais on cherche à progresser. En tous les cas, on souhaite que cela progresse. La fraternité, on aura beau fixer des textes, si en supposant, je ne vois pas de quelles règles on pourrait fixer. C'est vraiment un travail personnel, un travail qui est à refaire de génération en génération et où effectivement l'éducation des parents avec, bien entendu, leur connaissance et leur formation religieuse ou leur absence de formation religieuse. Mais la fraternité n'est pas un concept exclusivement religieux, d'ailleurs.
Bien sûr.
Bon, vous remarquez à juste titre qu'il y a beaucoup d'exemples de fraternité effectivement maltraitées dans la Bible et tout. Je crois que, effectivement, c'est notre responsabilité à la fois comme parents si on a des enfants, mais aussi comme citoyens de faire preuve de cette fraternité à l'égard de ses voisins, à l'égard de son entourage, à l'égard des personnes que l'on rencontre, et du même coup de faire tache d'huile. Je crois beaucoup à l'éducation par l'exemple, sur des choses qui ne sont pas aussi encadrées que des concepts comme la liberté ou l'égalité.
Et alors, on avait vu avec Jean-Marie Le Pen, donc pour ceux qui seraient jeunes et qui ne connaîtraient pas, c'est le père de l'actuel responsable du Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen avait complètement dévoyé la notion de fraternité en disant « mes enfants d'abord, ma famille, mes nièces, mes voisins, mais bien sûr, pas l'étranger ».
Oui.
Alors,
oui,
comment on peut rectifier les choses, dire que la fraternité, c'est pas ça?
Non, la fraternité, c'est pas ça, mais simplement, on peut dire d'abord que M. Le Pen a dit beaucoup de bêtises,
oui, c'est...
et tout, et des choses immensément scandaleuses et tout, et que ça,
oui,
ça en est une,
oui,
parmi d'autres, qui était même peut-être encore plus scandaleuse que celle-ci. Mais justement, la notion de frère, ou de sœur,
oui,
cette notion-là s'applique indépendamment des liens biologiques. C'est effectivement des liens qui peuvent exister dans une société. Lorsque je rencontre quelqu'un dans une permanence à la CIMAD, pendant l'instant où je le rencontre, pendant le temps que je vais lui consacrer, et cela pendant plusieurs semaines, il y a un lien de fraternité qui existe. Et ce lien persiste quand je ne le vois plus et qu'il ne revient plus me voir, soit parce qu'il a obtenu un titre de séjour, soit parce que malheureusement il l'a pas obtenu. Mais si je le croise dans la rue et que nous voyons, eh bien effectivement ce lien est immédiatement rallumé. Et c'est ça qui est beau, c'est que nous avons en commun quelque chose. Et vous savez, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui, à la fin d'un parcours, venaient me dire merci. Alors, on est très content que les gens disent
oui,
merci et tout,
oui,
vraiment ce que vous avez fait pour moi et tout. Et je leur disais, ne me dites pas ça, parce que de toute façon, peut-être qu'un jour, je serai confronté à la même situation ou à une situation différente, et c'est peut-être vous qui me tendrez votre main et tout, et je serai heureux de la saisir parce que vous me sortirez d'un mauvais pas, parce que nous ne sommes pas à l'abri les uns et les autres. C'est ça aussi la fraternité, c'est une question de respect, peut-être à certains moments d'une réciprocité qui viendra ou qui ne viendra pas, et puis une écoute des différences sans aucun jugement, mais avec la volonté d'être le plus généreux possible à l'égard des personnes que nous croisons.
Et c'est pas trop dur d'avoir justement un sentiment de fraternité à l'égard de gens qui viennent vous voir, que vous défendez, et puis qui pour la plupart ne seront pas pris, seront... Comment vous vivez ça, cet échec? Ça
oui,
ne vous pèse pas trop?
Si, c'est un échec, et c'est un échec qui pèse, parce que nous ne partageons pas la même vie que ces personnes. Nous ne l'avons pas partagée avant, quand ils ont traversé éventuellement la Méditerranée dans les conditions que nous connaissons, et nous ne la partageons pas dans cette vie d'invisibilité auquel ils sont contraints. Donc oui, c'est très dur, mais peut-être que effectivement, lorsqu'ils viennent vous rencontrer et qu'ils viennent vous parler, le fait de les écouter, le fait d'être attentif, de leur offrir une tasse de café ou un verre du jus d'orange et tout, c'est à la fois rien, ça ne règle pas leurs problèmes, et en même temps, ça leur montre qu'il y a des hommes et des femmes qui, la CIMAD en particulier, il y a d'autres associations, mais la CIMAD en particulier, essayent, à côté du militantisme qu'ils peuvent avoir dans leur discours vis-à-vis des autorités publiques, essayent de les accueillir de la manière la plus humaine possible. Alors, est-ce que ça change la face du monde? Non, peut-être pas, mais si on ne le faisait pas, je pense que effectivement, il n'y aurait aucune possibilité pour que cette face du monde soit changée.
En vous écoutant, je repense à l'association Amnesty International, qui n'est pas protestante, et où les prisonniers qui recevaient des lettres, enfin moi je parle au passé, mais parce que les lettres ça se fait plus beaucoup, mais qui recevaient des lettres disaient que c'était la porte de l'espoir, que même s'ils ne sortaient pas, parce que malheureusement ça se terminait souvent comme ça, mais il y avait quelque chose, ils appartenaient encore au monde des vivants.
Oui.
Et alors justement ça va faire la transition avec ma question. On a parlé de la CIMAD, bien sûr, mais dans la société, où est-ce, bon, on trouve la fraternité justement dans des associations, mais ailleurs, où est-ce qu'on la trouve? Vous l'avez vu aussi dans les services sociaux, ce qui était originale. Et est-ce que vous la voyez ailleurs?
Mais la fraternité, on la voit telle que je l'entends, en tous les cas.
Oui,
et tout,
sûr.
Parce que là aussi, on peut en discuter pendant très longtemps, effectivement. Mais on peut la voir dans la vie de tous les jours. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue et que pour une raison ou pour une autre, vous engagez une conversation avec cette personne et tout, comme moi j'aime bien le faire, effectivement, parce qu'on regarde la même chose, ou on croit regarder d'ailleurs la même chose dans une vitrine de magasin, ou parce qu'on attend un bus qui n'arrive pas et tout. Vous avez des personnes avec qui, très vite, vous constatez que vous ne pouvez pas parler.
Oui.
Bon, vous vous retirez.
Bien sûr.
Mais si vous pouvez parler sans rentrer dans leur intimité, mais on peut échanger sur des choses, sur le temps, sur une fleur qu'ils portent, sur, je ne sais, un livre que ces personnes lisent, et ça éclaire votre journée.
C'est
un moment de fraternité.
Ouais.
Voilà. Et je reste persuadé que ces moments-là enrichissent notre vie. Ah oui, ne le change pas. Mais elles enrichissent aussi la vie des personnes avec qui on a partagé cet instant et qui leur montrent, comme à nous, que nous ne sommes pas des personnes individualistes et seules et sans s'intéresser. Et au moment où effectivement tant de gens marchent dans la rue, vous avez dû le constater, les yeux penchés sur leur téléphone, sans regarder à droite, à gauche, et qui vous rentrent dedans quelquefois et tout. Mais j'aime bien qu'ils me rentrent dedans parce que je leur dis bonjour et tout. Et alors, du même coup, certains repartent irrités et d'autres, on échange trois mots.
Oui.
Mais peut-être qu'on a semé une graine et tout. Enfin, j'ai cette espérance et tout. Donc, il faut saisir, au fond, toutes les occasions, dans la rue, dans son immeuble, avec son voisin même qui n'a pas envie de discuter. Forcément, il faut le respecter. Mais peut-être qu'un jour, il aura envie de discuter et tout et d'échanger. Il faut saisir toutes les occasions et accueillir les gens avec sourire, effectivement. Et ça, je pense que c'est un devoir aussi social, je dirais, pour maintenir une société qui fonctionne, parce qu'une société d'individualistes, ça ne marche pas.
Et dans les églises, vous trouvez qu'il y a assez de fraternité? Est-ce que vous avez déjà rencontré des communautés un peu justes au niveau de la fraternité?
Je ne porterai pas de jugement de ce type.
Alors, je posais ma question d'une autre façon, peut-être.
Ah, très bien.
Est-ce qu'on peut être chrétien, selon vous, sans professer justement la fraternité?
Je ne le crois pas.
Ouais.
Mais c'est un exercice difficile. Et je pense que c'est un exercice auquel il a fallu être invité à un moment donné. Et qu'il faut pratiquer tous les jours. Et il faut bien dire qu'il y a des jours où on n'a pas envie d'être fraternel, parce qu'on a ses propres soucis, parce qu'on a des ennuis, parce qu'on ne se retrouve pas effectivement dans telle ou telle décision, ou parce qu'on a reçu un courrier extrêmement désagréable de quelqu'un. Donc on n'a pas envie, et c'est naturel. Mais ensuite, il faut que le naturel soit abandonné, et qu'on revienne avec optimisme, effectivement, à la fraternité. Une église qui, je pense qu'il n'en existe pas, mais une église qui ne serait pas fraternelle, qui n'accueillerait pas généreusement toutes les personnes qui viennent, pense qu'elle ne correspondrait pas à l'objectif que toute église doit avoir, à mon sens, et ça, quelle que soit sa théologie. Si l'on est tourné, parce qu'il y a des fraternités qui sont des fraternités mortifères, moi je parle d'une fraternité ouverte, les fraternités qui sont tournées vers soi-même et qui aboutissent au fait qu'on ne peut y rentrer que parce qu'on respecte certaines règles, ça c'est la négation.
Oui, ça c'est la fraternité où ça sert à exclure celui qui n'est pas
voilà,
frère.
Voilà, c'est le sectarisme, sectarisme. Et on a tort d'utiliser le terme de fraternité pour cela. Bien évidemment, tout ça doit être écarté violemment. Et il peut y avoir, effectivement, dans une société, des sectarismes immensément dangereux pour des frères qui participent à cette fraternité et qui, bien entendu, se reconnaissent entre eux et refusent les autres. Ce sont des fraternités politiques, ce sont des fraternités aussi spirituelles.
Et toutes ces
fraternités sont à écarter et à montrer du doigt, bien évidemment.
Et est-ce que vous pensez que la fraternité, pour ressentir la fraternité, il faut aussi avoir la possibilité de ressentir de l'empathie ? C'est-à-dire être capable de ressentir ce que l'autre ressent face au rejet. Est-ce que des gens qui n'ont pas d'empathie, ça existe ? Paraît-il que quand on a examiné les condamnés de Nuremberg, les nazis, le docteur qui les a examinés, le psychiatre, qui était d'ailleurs un psychiatre juif, a trouvé que la seule explication, c'est qu'ils n'avaient pas d'empathie. Ils étaient incapables de ressentir les sensations, les sentiments des autres. Et est-ce qu'il y a quelque chose de semblable ? Est-ce que fraternité et empathie, c'est une question peut-être un peu trop... Non, c'est bon.
Moi, je ne suis pas psychiatre, donc oui. Je ne vais pas vous dire ce qu'il en est. Je pense que la fraternité va au-delà de l'empathie.
Ouais.
L'empathie, c'est tout à fait bien. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui ne puissent pas effectivement connaître l'empathie. Je pense que effectivement, on peut progressivement, par une répétition de dogmes, s'écarter effectivement de l'empathie, ne pas reconnaître que l'on a de l'empathie pour certaines personnes, ou même ne plus en avoir pour certaines catégories de personnes. C'est ce que vous indiquiez sans doute pour les hauts dignitaires nazis. En revanche, la fraternité, c'est quelque chose qui va au-delà, me semble-t-il, de l'empathie. Je peux avoir de l'empathie pour quelqu'un, mais ne pas essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il a vécu. Et pouvoir expliquer par là des positions qu'il peut avoir qui ne me satisfont pas ou même vont à l'encontre de ce que je pourrais moi-même ressentir, ou bien qui l'amène à prendre des décisions qui ne vont pas dans une bonne direction, même pour son avenir. Et là, il y a tout un travail à mener avec cette personne qui est plus compliqué, me semble-t-il, que l'empathie. C'est vraiment un travail sur soi-même qui doit amener à se dépouiller de toute une série d'a priori que l'on peut avoir pour être plus proche de l'autre. C'est pas forcément quelque chose que l'on fait à tout instant, bien évidemment.
Eh bien, je vous remercie, Henri Masson, de cette discussion sur la fraternité qui m'a beaucoup intéressée. Et je remercie nos auditeurs de leur fidélité et je leur dis à la prochaine fois. Au revoir.
Merci bien.
Thème et anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.